Il y a quelques semaines, un homme politique français bien connu, Nicolas Sarkozy pour ne pas le citer, était interviewé par un journaliste à la télévision. Et M. Sarkozy devait choisir, c'était le but de l'interview, trois personnes de l'histoire avec qui il pourrait manger et discuter autour d'une table. Il n'en choisit qu'un seul, Jésus. Non pas parce qu'il se dit croyant, mais tout simplement par curiosité et reconnaissance du personnage, selon lui, le plus important de l'histoire de l'humanité. Qu'on soit croyant ou pas, ça vaut le coup de discuter avec lui et de pouvoir lui poser des questions. J'ai toujours rêvé de devenir quelqu'un du premier siècle, quelques minutes seulement, et de pouvoir être là en Judée avec Jésus et lui poser quelques questions. Jésus, pourquoi t'as pris de la boue pour guérir un aveugle? Ou Jésus, pourquoi t'as attendu 3 jours avant d'aller consoler tes amis Marie et Marthe quand leur frère est mort, alors que t'étais pas loin? Ou Jésus, c'était quoi ton repas préféré? Ou Jésus, il s'est passé quoi pendant 3 jours entre ta mort et ta résurrection? Ou bien, Jésus, pourquoi il y a tant de souffrance dans ce monde? Et on pourrait continuer la liste longtemps. Et vous d'ailleurs, quelle question est-ce que vous auriez aimé poser à Jésus? Allez-y, dites-le. Quelle question? Jésus, comment tu vis la Trinité? Bonne question, théologique. Pourquoi tu m'aimes tant, Jésus? Jésus, pourquoi tu m'aimes? Comment il me voit? Jésus, comment est-ce que tu me vois? Ouais, des bonnes questions que je vous propose de garder en tête pour vous et pour ce texte, cette rencontre entre Jésus et un spécialiste des Écritures, grand nom, qui pose une question à Jésus. Et nous lisons ensemble dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 12, à partir du verset 28. Un spécialiste des Écritures s'approcha de Jésus et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui répondit, « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus important que ces deux-là. » Le spécialiste des Écritures reprit, « Très bien, maître, ce que tu as dit est vrai. Dieu est unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, est plus important que toutes les offrandes et les sacrifices d'animaux. » Jésus vit qu'il avait répondu avec intelligence et lui dit, « Tu n'es pas loin du règne de Dieu. » Et personne n'osait plus lui poser de questions. Voilà donc la question de ce spécialiste des Écritures. Quel est le premier de tous les commandements? J'aimerais qu'on médite ensemble, à la fois sur la question, mais surtout sur la réponse que Jésus va donner. Et je vous propose de regarder de plus près aux 3 personnages qui sont présents dans notre texte. Le premier, c'est ce spécialiste des Écritures, ce scribe, pharisien, ce théologien, un homme qui passait son temps à étudier la loi, à écrire, à l'enseigner, à faire un travail d'archiviste, un homme qui connaissait la loi. Quand on parle de loi, on parle d'Ancien Testament, du Premier Testament, de cette première partie de la Bible qui nous raconte L'histoire d'un peuple à qui Dieu s'est révélé de façon particulière pour que ce peuple parle de Dieu au monde. J'aime beaucoup la question de cet homme. En fait, il connaissait très bien la réponse. La preuve, il dit même à Jésus qu'il a bien répondu. Et il ajoute même quelques précisions dignes d'un bon prof qui corrige la copie d'un très bon élève. On peut s'interroger sur la raison, sur la motivation de cet homme à poser cette question à Jésus, mais il l'a posée. Il a osé poser une question à Jésus. Et on dit parfois aussi que pour rassurer les gens et les aider à poser une question, question bête. Non plus avec Jésus, il n'y a pas de question bête. Et je vous encourage ce matin à poser vos questions à Jésus. Et Jésus répond, puisqu'il parle. Et on l'a vu, souvenez-vous, au début de notre campagne écoute, en septembre, Dieu parle par la création, par la Bible, par la prière, etc. Justement, Jésus, c'est le deuxième personnage de cette discussion. Jésus est là avec ses disciples, en ville, et il répond en tant que rabbi, en tant que maître de la loi, lui aussi. Il répond aux questions tout en sachant que ses spécialistes des Écritures veulent le piéger pour pouvoir le condamner selon la loi. Et dans ce contexte, la réponse de Jésus prend plus d'ampleur. On a un bel exemple de débat, quelque part. Les avis sont peut-être différents, les motivations sont certainement différentes, mais Jésus répond avec une attitude d'écoute. Il laisse toute la place à la question. Et ça nous rappelle ce parcours sur l'écoute qu'on a fait. Laisser l'autre parler, c'est lui accorder notre écoute, notre amour, et c'est ce que semble faire Jésus ici avec cet homme. Alors vous vous demandez peut-être quel est le troisième personnage. Eh bien, c'est le lecteur, c'est vous et moi. Parce qu'il ne faut jamais oublier que le texte a été écrit, rédigé, condensé, des fois détaillé pour le lecteur, pour vous et moi. Et on doit regarder à la conclusion de cette rencontre, où l'auteur précise que personne n'osait plus poser de questions à Jésus. Comme si l'auteur voulait sortir le lecteur de cette rencontre entre Jésus et cet homme, pour en revenir à personne, à tout le monde, à vous et moi, au lecteur. Et quelque part, c'est un peu une prise de température de la réaction des personnes qui entouraient Jésus et ce spécialiste des Écritures. Et d'une certaine manière, nous aussi ce matin, à la lecture de ce texte, nous entourons Jésus et cet homme et nous entendons la même discussion. Quelle est notre réaction, notre impression face à cet amour dont Jésus va parler ? Réaction silencieuse qui ne se laissera peut-être pas transformée par la parole du Christ, ou une réaction d'écoute active de cette parole d'amour. Et l'amour envers Dieu est donc l'une des deux facettes de ce premier commandement dont il est question dans ce texte. Mais cet amour envers Dieu, il est possible que parce que Dieu nous a aimés le premier. Et c'est d'ailleurs ce que dira la première épître de Jean quand il est dit « Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier ». Et il ne faut pas oublier que aimer Dieu ou aimer notre prochain n'est un commandement uniquement parce que Dieu nous a lui-même montré l'exemple. Parce que Dieu nous a d'abord aimés, parce que Dieu nous rend ainsi capables d'aimer à notre tour. Et Dieu nous aime, non pas parce que nous sommes de bons chrétiens. Dieu nous aime non pas parce que nous montrons beaucoup d'amour envers Dieu ou envers notre prochain. Dieu nous aime parce qu'il nous a créés. Dieu nous aime parce qu'il nous a créés très bons et parce qu'il a créé la terre et tout ce qui s'y trouve pour l'humanité, pour toi et moi. Dieu nous aime tellement qu'il est d'ailleurs devenu comme nous. Il est devenu homme. Et c'est encore plus que cela d'ailleurs. Il est devenu homme malgré notre rejet envers lui. Et c'est, je crois, la plus belle histoire d'amour. Et cet amour de Dieu, il est fidèle, il est vrai, il est authentique, au contraire parfois de l'amour de notre prochain, qui n'est peut-être pas toujours authentique. Que penser de l'amour de notre prochain quand celui-ci nous abandonne, quand celui-ci nous fait du mal, quand celui-ci est peut-être violent avec nous? Ça arrive tellement souvent dans notre monde. Mais Dieu nous propose son amour. Et c'est un amour qui fait plus que combler le vide que peut provoquer la violence de notre prochain. C'est un amour qui guérit, un amour qui restaure, un amour qui redonne vie, qui redonne de l'espoir. C'est l'amour premier de Dieu. Et cet amour, si Dieu l'a sublimé quelque part au moment de son incarnation, il l'avait déjà montré de la façon dont il s'est révélé au peuple d'Israël dans son histoire ancienne. Une histoire que Jésus, dans sa réponse aux spécialistes, va aller chercher. Il va remonter d'ailleurs à ce moment clé où Dieu donne la loi à Moïse. Et c'est intéressant parce que Jésus commence par l'appel de Dieu au peuple d'Israël. Écoute, Israël. Et c'est le moment où Dieu invite le peuple à l'écouter. Lui, le seul et unique vrai Dieu. Et Jésus continue en citant un autre passage que le premier des 10 commandements, à laquelle on aurait pu s'attendre à cette réponse, le premier des 10 commandements. Mais Jésus ne répond pas ainsi. Et s'il cite d'autres passages de la loi de Moïse, c'est quelque part qu'il fait une analyse, un résumé de la loi. Et finalement, Jésus montre bien dans cette discussion que l'amour de Dieu s'ancre dans l'histoire, qu'il s'est toujours révélé malgré le rejet de l'homme et qu'il se révèle encore. Alors oui, l'amour de Dieu est bien la raison de notre adoration envers Dieu seul. Et c'est aussi parce qu'on aime Dieu qu'on va l'adorer, lui seul. Mais c'est aussi vrai que l'adorer, le louer, le célébrer ensemble au culte comme ce matin, cela nous aide à l'aimer toujours plus. Et notre amour pour Dieu n'est donc qu'une réponse à l'amour divin. Aimer Dieu, c'est lui accorder l'exclusivité et la primauté. C'est ce qui vient en premier, au sens du nombre, mais aussi et surtout au sens de l'importance. D'ailleurs, vous vous rappelez toujours à quelle question Jésus répond. À celle de savoir quel est le commandement le plus important. Et Jésus répond, aime Dieu. Et aime Dieu de tout ton être, de tout ce qui t'anime et qui fait ce que tu es. Aime Dieu avec tout ton corps. Aime Dieu avec toute ton intelligence. Aime Dieu dans tous tes traits de caractère. Aime Dieu avec tes qualités, mais aussi avec tes défauts. Aime Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne s'arrête pas à l'amour envers Dieu. C'est comme s'il n'acceptait pas de répondre simplement. Comme s'il voulait challenger son interlocuteur. Est-ce que cet homme sera d'accord avec ce que Jésus va ajouter? Et que rajoute Jésus? Eh bien, Jésus va aller chercher une citation, « Aime ton prochain comme toi-même », qui, dans son contexte initial, ne semble pas être si globale que ça. Une justification d'une instruction particulière que Dieu donne, du style « Vous agirez ainsi parce que tu aimes ton prochain comme toi-même », un petit peu à la marge. Et Jésus inverse la donne, comme souvent d'ailleurs. Pour lui, c'est parce qu'on aime son prochain qu'on va lui faire du bien. Et l'auteur replonge bien son lecteur dans l'histoire de Dieu avec le peuple d'Israël, où les exemples, et on peut le lire dans l'Ancien Testament, sont nombreux d'un Dieu qui demande à son peuple d'aimer son prochain. Mais avant de pouvoir aimer son prochain, et parce que Dieu nous a aimés et que nous l'aimons en retour, Jésus nous invite à nous aimer nous-mêmes. Et face à cet impératif, on est parfois désabusé. Est-ce que ce n'est pas égoïste de s'aimer soi-même ? Est-ce que ce n'est pas orgueilleux que de se dire qu'on s'aime soi-même ? Et à l'inverse, on pourrait penser que parce qu'on doit s'aimer soi-même, alors il faut faire ci et faire ça, ne pas faire ça, parce qu'il faut s'aimer, prendre soin de soi-même. Et là, que ce soit dans un extrême ou dans un autre, on peut facilement tomber dans le légalisme, comme certains Corinthiens dont Eric a parlé dimanche dernier. Non, Jésus n'est pas dans l'extrême. Il est dans l'amour véritable, dans l'amour parfait. Et dans cet amour, il est important pour l'homme de s'aimer soi-même. Parce que s'aimer soi-même, c'est une façon d'aimer Dieu. Une façon de reconnaître son amour et de reconnaître que malgré tout, Dieu nous aime. Mais ce n'est pas toujours simple, hein. Il faut le reconnaître. On a peut-être un rappel de ce qu'on a entendu dimanche dernier sur les forts et les faibles. Cette sensibilité nécessaire aux forts pour comprendre et montrer de l'empathie envers ceux qui ont des difficultés, qui vivent des difficultés. Et s'aimer soi-même quand rien ne va, pour notre corps notamment, ou notre intellect, c'est difficile. Et face à cette difficulté, j'aimerais redire que Dieu nous aime inconditionnellement, tel que nous sommes. Tel que nous sommes. Et finalement, est-ce que cet amour de Dieu, cet amour qu'on a pour Dieu, cet amour qu'on a de soi-même, est-ce qu'il n'est pas aussi à partager ? Mais oui, cet amour est à partager. Et pas seulement, vous savez, le fait de parler de l'amour de Dieu aux autres. Non, pas seulement. C'est un amour à démontrer, un amour à vivre, un amour qui finalement se vit au quotidien, avec l'autre. Dieu ne nous a pas seulement créés en relation avec lui, mais il nous a créés aussi en relation les uns envers les autres. Et cette relation doit nous inciter à nous aimer. Alors pourquoi ne pas continuer à aimer notre prochain ? Et là, ne posez pas la question, ni à moi ni à Jésus, mais qui est mon prochain ? Vous savez où trouver la réponse. Jésus y a déjà répondu. Ou si vous vous la posez, lisez ou relisez la magnifique histoire du bon samaritain. Et dans cette notion d'amour à partager, on pense souvent, à juste titre, à l'humanitaire, à la solidarité. Et ce sont des sujets extrêmement importants. Et je suis reconnaissant que l'Église locales, mais en général, soutiennent et s'investissent dans ces sujets-là. Mais j'aimerais quand même vous inviter à ce que l'amour du prochain soit votre leitmotiv, votre devise à laquelle vous penserez ces prochains jours à votre travail, face à ces collègues qui font mal leur travail, dans votre club de sport face à ces sportifs en herbe qui n'avancent pas, dans la ville, face à ces gens qui sont accablés par les soucis de la vie et qu'on n'a parfois même pas regardé, comme s'ils n'existaient pas. Ou dans votre famille, face à votre fratrie ou à vos parents, enfants, qui peut-être vous accusent de tous les maux. Ou dans l'église, face à ces gens qui dérangent, qui ne sont pas comme vous. Un amour à partager avec votre argent, votre temps, vos mains, mais aussi avec vos intentions, votre attitude, un amour à partager. Et si cet amour est à partager, c'est aussi qu'il est à recevoir. On pense souvent que quelque part Dieu nous demande toujours de donner, de se sacrifier. Mais si quelqu'un donne, c'est que quelqu'un reçoit en face. Et ce quelqu'un d'autre, eh bien, ça peut être chacun d'entre nous. Et quand on y réfléchit, c'est pas toujours évident de recevoir de l'amour de quelqu'un de si différent, socialement, spirituellement, culturellement. Mais je vous invite aussi à recevoir, accepter l'amour de l'autre, de la même manière, quelque part, que l'on reçoit l'amour de Dieu, recevons aussi l'amour de l'autre. Alors finalement, la réponse de Jésus, c'est un commandement un peu spécial, un commandement d'aimer. Et d'ailleurs, dans la première épître aux Corinthiens, celle aussi dans laquelle Éric nous conduit en ce moment, l'auteur va développer tout un chapitre sur ce qu'est l'amour. Et on peut en lire un extrait, simplement pour prendre un temps de méditation personnelle sur l'importance de l'amour. Lisons. Supposons que je parle les langues des êtres humains et même celles des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Je pourrais transmettre des messages reçus de la part de Dieu, posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi capable de déplacer des montagnes. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. Maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois est l'amour. Et l'amour est même plus important qu'une bonne vie chrétienne, qu'une bonne vie de disciple bien réglé. Et c'est même pas Jésus qui le dit, c'est le spécialiste de la loi. Il affirme que cet amour est plus important que les offrandes et les sacrifices d'animaux. Et Jésus acquiesce et confirme. Décidément, on est un peu dans la suite de dimanche dernier encore avec ces sacrifices d'animaux et d'une possible bonne position chrétienne sur le sujet, comme sur plein d'autres sujets d'ailleurs, même d'actualité, Halloween par exemple. Mais dans ces sujets, c'est l'amour. C'est l'amour qui est le plus important qu'une bonne piété, plus important qu'un dévouement au service de l'Église. Et la piété et le service sont de très bonnes choses. Mais l'amour est plus important. Et c'est d'autant plus intéressant que l'auteur relève la notion de sacrifice. Est-ce que justement le sacrifice n'est pas la plus belle preuve d'amour ? Est-ce que donner sa vie pour son prochain, ce n'est pas la plus belle preuve d'amour ? Peut-être. Mais dans notre quotidien français, on a rarement l'occasion de donner sa vie pour son prochain, en tout cas dans un pays sans guerre. Mais tous nos sacrifices, même ceux que l'on fait pour l'Église, ne sont pas plus importants que l'amour lui-même. La preuve n'est pas plus importante que le fait. Et quelque part, peut-être que c'est le spécialiste des Écritures qui s'est fait piéger. Vous vous souvenez, il voulait piéger Jésus par sa question. C'est un peu l'arroseur arrosé en disant que l'amour est plus important que toute la loi à laquelle il attache tant d'importance. Et c'est peut-être pour cette raison que personne n'osa plus poser de questions à Jésus. Ils en avaient pris pour leur grade, comme on dit. Ils avaient trouvé plus fort qu'eux en rhétorique et en théologie. Alors oui, l'amour est le plus important. Et au final, comme le dit le titre d'un commentaire théologique de l'Apocalypse, l'amour vaincra. C'est l'amour qui vaincra toutes les épreuves et les difficultés que l'homme aura vécues sur cette terre. C'est l'amour qui a vaincu le mal à la croix, quand Jésus a accepté d'aller jusqu'au sacrifice ultime pour nous, c'est l'amour qui aura le dernier mot. Et c'est dans ce sens qu'on utilise le verbe vaincre. C'est l'amour de Dieu qui aura le dernier mot sur une nouvelle terre où le Christ reviendra vivre avec nous pour toujours et où une harmonie parfaite règnera entre tous. Et c'est là notre espérance. Et en pensant au fait que l'amour de Dieu est premier et qu'il aura le dernier mot, on comprend peut-être mieux la parole du Christ « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier ». Alors, osons poser nos questions à Jésus et osons accepter sa réponse d'amour. C'est impératif pour tout chrétien d'aimer Dieu, de s'aimer soi-même et d'aimer son prochain, et non seulement le plus important, mais Jésus dira ailleurs que c'est bien le seul qui compte en tant que commandement. La devise de saint Augustin, dont on a entendu la semaine dernière, est encore pertinente aujourd'hui. Aime et fais ce que tu veux. Et celle de notre union aussi, dans les choses essentielles, fidélité. Dans les choses secondaires, liberté. Et en toutes choses, charité. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a de la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette ta lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Ô Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Amen.